VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guirillet au micro pour vous présenter un tour d'horizon de l'actualité. Un nouveau cas de fièvre hémorragique à virus Ebola signalé au Libéria. Un jeune homme de 17 ans est décédé de la fièvre seulement 7 semaines après que l'Organisation mondiale de la santé eut déclaré l'éradication de la maladie. Les autorités sanitaires tentent de déterminer comment le malade a contracté le virus. Félix Yepassi-Zembrou.
Le jeune homme est décédé le 24 juin dans le comté de Marguibi, loin des frontières de la Guinée et de la Sierra Leone, les deux autres foyers de l'Ebola. Le ministre adjoint de la Santé, Tolbert Nyenswa, en charge de la lutte contre Ebola du Libéria, a fait savoir que ses services ignorent comment l'adolescent a contracté la maladie, mais une enquête a été ouverte et il a exhorté les populations à ne pas céder à la panique. Un message qui semble être tombé dans des oreilles de sourds, étant donné le traumatisme dans lequel baignent les populations. Confort Freeman, mère de 4 enfants, ne peut s'empêcher d'être inquiète.
Nous, les grandes personnes, nous pouvons prendre des précautions, mais les enfants ne peuvent pas en faire autant. Donc je me sens si diminuée ce matin. Nous mettons notre foi en Dieu. Avec lui, tout est possible.
Le virus Ebola a tué plus de 11 100 personnes depuis le début de l'épidémie à la fin de décembre 2013 au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone.
Un rapport de l'ONU publié aujourd'hui accuse les troupes sud-soudanaises d'avoir violé et brûlé des femmes et des filles dans le nord du pays. Les précisions de Lionel Gaïma.
Des enquêteurs de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud ont relevé des violations généralisées des droits humains par l'armée sud-soudanaise, la SPLA, et ses alliés contre les populations de l'État d'unité. S'appuyant sur les témoignages de 115 victimes témoins, le rapport cite des cas d'enlèvement, de torture et des viols de femmes et des filles dont certaines auraient été brûlées vives dans leur maison. Les survivants de ces attaques ont affirmé que la SPLA et ses milices alliées du département du Mayom ont mené une campagne contre la population locale, tuant des civils, pillant et détruisant les villages et provoquant le déplacement de plus de 100 000 personnes, souligne le communiqué de l'ONU. Pour Hélène Margaret Lodge, représentante spéciale du secrétaire général et le chef de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, l'ampleur et le niveau de cruauté qui caractérise ces informations suggèrent une animosité qui dépasse les clivages politiques. Révéler la vérité au sujet de ces événements offre le meilleur espoir de rompre le cycle d'impunité, a-t-elle ajouté.
La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a réitéré lundi devant le Conseil de sécurité de l'ONU la détermination de la Cour à obtenir l'arrestation du président soudanais Omar Hassan el-Béchir. Ce dernier fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI depuis 2009. Il est poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour, où les violences ont fait plus de 300 000 morts depuis 2003. La compilation des résultats se poursuivait aujourd'hui au Burundi, sans grand suspense, au lendemain des résultats d'élections législatives et communales, qui, selon l'AFP, devraient consacrer la victoire, du parti du président Pierre Nkurunziza et de ses alliés. L'opposition et la société civile, qui avaient appelé au boycott, ont fustigé une parodie d'élection. De son côté, la communauté internationale a quasi unanimement dénoncé la tenue de ces scrutins par les autorités burundaises, sourdes aux appels à les reporter. Jacques Aristide.
Les candidats élus ne seront pas nos députés. Ils ne nous représenteront ni au Conseil communal ni au Parlement. Ils tenteront de représenter leur maître Nkurunziza, mais le pays nous appartient, nous ne l'accepterons pas. Écrit sur Facebook un des dirigeants de la contestation, Pacifique Nini Nahazwe. L'Union européenne, principal partenaire du Burundi, a qualifié la tenue de ces élections de fait grave, susceptible d'exacerber la crise et menacé de mettre en branle les mécanismes menant à la suspension de sa coopération avec le pays, très largement dépendant de l'aide extérieure. Les États-Unis se sont dit profondément déçus car ces législatives ont été organisées dans des conditions terriblement inadéquates. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, se dit pour sa part préoccupée par la grave situation politique et sécuritaire au Burundi.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté lundi une résolution qui proroge le mandat de la MINUSMA, la mission onusienne au Mali, jusqu'au 30 juin 2016. Le Conseil s'est félicité de la signature par le gouvernement malien et les coalitions de groupes armés, plateforme et coordination des mouvements de Nazawad, de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Au Burkina Faso, une dizaine de soldats de la garde présidentielle a été mis aux arrêts pour avoir tiré lundi soir des coups de feu en l'air dans l'enceinte de leur caserne. C'est ce que rapporte l'AFP, qui cite deux officiers de ce corps d'élite et une source diplomatique. La garde présidentielle a manifesté sa colère lundi soir en tirant en l'air près du palais présidentiel à Ouagadougou. Des éléments de cette garde protestaient contre des rumeurs selon lesquelles une action devait être fomentée contre le Premier ministre Isaac Zida à son retour dimanche d'un voyage officiel à Taïwan. Ce qui n'a pas été le cas, nous y reviendrons en seconde partie d'émission.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Dans le reste du monde, le groupe État islamique a de nouveau frappé au Yémen. Au moins 28 personnes, dont 8 femmes, sont mortes dans un attentat à la voiture piégée contre des membres de la rébellion chiite réunis pour une cérémonie de deuil. L'État islamique a indiqué dans un communiqué que l'attaque de mardi était de l'attaque d'aujourd'hui, donc était dirigée contre l'un des nids des chiites à Sanaa, la capitale yéménite, aux mains des rebelles. Par ailleurs, en Syrie, le groupe terroriste État islamique gagne du terrain. Les djihadistes ont pénétré dans la ville de Tal Abyad, près de la frontière turque. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, cité par l'AFP, les islamistes ont pris le contrôle d'un quartier deux semaines après en avoir été chassés par les combattants kurdes. Les Kurdes qui chercheraient donc à encercler les djihadistes et les empêcher d'avancer. Le groupe État islamique aurait par ailleurs pour la première fois décapité des femmes en Syrie. Toujours d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces femmes ont été tuées aux côtés de leur mari dans la province orientale de Deir ez-Zor après avoir été accusées de sorcellerie. Les pourparlers sur le nucléaire iranien vont se poursuivre jusqu'au 7 juillet, ont annoncé aujourd'hui des officiels américains. Les négociateurs s'étaient donnés jusqu'à ce mardi 30 juin pour arriver à un accord définitif. Les précisions d'Idrissa Seydoudia.
Selon la porte-parole américaine Mary Half, les participants ont décidé d'aller au-delà de cette date butoir pour donner plus de temps aux négociations afin d'arriver à une solution à long terme. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, qui est revenu à Vienne après des consultations à Téhéran, a rencontré le secrétaire d'État américain John Kerry, qui a dit avoir eu une bonne conversation avec son homologue iranien. Les négociateurs ne révèlent rien sur les détails de ces négociations entre les États-Unis, leur partenaire du P5+1 et l'Iran. Mais selon certains observateurs, les pourparlers buteraient, entre autres, sur l'accès des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique au site iranien, ainsi que le calendrier de la levée des sanctions contre Téhéran. L'accord final auquel les négociateurs espèrent aboutir dans les prochains jours doit garantir le caractère pacifique du programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions internationales qui affectent l'économie de ce pays.
Et retour sur l'attentat qui a fait 38 morts vendredi à Sousse, en Tunisie. Les forces de l'ordre n'étaient pas préparées à l'éventualité d'une attaque sur une plage. C'est ce qu'a reconnu le président belge Kaïb Essebsi. Souvenez-vous, l'assaillant, un jeune Tunisien armé d'une kalachnikov cachée dans un parasol, a ouvert le feu sur les vacanciers. Un massacre revendiqué par le groupe État islamique. Au Koweït, le ministre de l'Intérieur a annoncé le démantèlement d'une cellule terroriste responsable de l'attaque suicide anti-chiite qui a fait 26 morts vendredi. C'est ce que rapporte l'AFP. Nous sommes en état de guerre, a déclaré Sheikh Mohamed Khaled Al-Sabah. Il a ajouté que le riche émirat pétrolier avait révisé toutes les mesures de sécurité, notamment autour des mosquées et de tous les lieux de culte. Sachez enfin que dans la course à la présidentielle ici aux États-Unis, Chris Christie, gouverneur républicain du New Jersey, a annoncé sa candidature. Au micro, c'était Morgane Guiriec. Je cède la place à Camille Grosdidier dans Carrefour Sciences et Santé.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.